Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons, il comptait aux oiseaux.
Paix et tout bien, Pâques 7 Bonhomme, amis auditeurs, bienvenue sur notre radio pour notre quart d'heure franciscain. Nous retrouvons la série par les éditions Saint-Léger sur Frère François de Julien Green. Nous arrivons à l'étape très complexe, celle de Frère Élie. Je vous propose d'écouter l'histoire telle que nous la raconte Julien Green, en s'appuyant bien sûr sur les sources franciscaines.
Frère Élie d'Assise. Probablement en 1213, fait son entrée dans l'ordre ce grand et très mystérieux personnage, ce fils de matelassier d'Assise qui allait devenir le troisième personnage de la chrétienté, d'une importance presque égale à celle du pape et de l'empereur. Béni par les uns, maudit par les autres, il disparaît et reparaît dans les chroniques du temps selon les caprices de la haine et de l'admiration. Qui était-ce donc? Né à Assise d'une mère assisiate et d'un père venu de Castelbriti, dans les environs de Bologne, il est sans doute à peu près du même âge que François. Nous le voyons d'abord gagner sa vie comme matelassier et aussi comme maître d'école. Il connaissait François parce que tout le monde se connaissait à Assise, surtout dans des professions de toile. Était-il intime? On se souviendra de ce jeune homme que François voyait souvent parce qu'il le préférait à tous ses compagnons et qu'au moment de sa conversion, il prit pour confident. C'est à lui qu'il fit la révélation de la découverte d'un immense et précieux trésor. L'ami inconnu manifesta beaucoup de joie et se montra curieux d'en savoir plus. Curieux, il l'était extrêmement. Mais rien de ce qu'il dit à François n'est arrivé jusqu'à nous. On imagine l'exaltation et la naïve loquacité du jeune converti. Il y a en lui la surabondance de paroles d'un amoureux qui parle de son amour. Et le confident écoute. Docilement, il suit ce singulier garçon qui s'était pris de Dieu. Un jour, François le mène à cette caverne où il aura une grande crise de larmes, la première d'une longue série qui finira par rendre ses yeux fragiles. Le confident se tient un peu à l'écart, délicat, mais attentif, veillant sur ce François qui l'intrigue par son exceptionnelle qualité d'âme. Pour parler simplement, il devine qu'il a affaire à quelqu'un, et que là où est François, la grandeur est là aussi. Et François l'aime. Selon nous, cet inconnu est peut-être Élie. Je dirais n'est autre qu'Élie. Les quelques années qu'il a de plus que François, son poste de consul lors de la première commune d'Assise, tous les papiers détruits sur ordre des ministres généraux Jean de Parme et Bonaventure, et qui le concernaient, son intelligence, son caractère, m'incline à croire qu'Élie était l'inconnu. Son caractère, surtout. Or, Élie était ambitieux. Quittant Assise, il est allé vivre à Bologne, où il est devenu notaire, métier qui ne l'empêcha pas de s'instruire dans cette cité universitaire, la première d'Europe. Et le jour viendra où Élie sera considéré comme un des hommes les plus savants de son temps. Nous ne nous éloignons de François que pour le retrouver dans l'éclairage de son amitié avec Élie. Mais quel bouleversement dans leur rapport! Personne n'aura plus admiré François qu'Élie. Mais pourquoi faut-il qu'il ait semblé être son plus redoutable antagoniste? Il a fourni à Celano une bonne partie de la première biographie que nous ayons du saint, dont il se disait le confident le mieux informé. Frère Léon s'inscrira en faux et réclamera ce titre d'ami le plus intime de François. C'est ainsi qu'il y aura autour de celui-ci d'incessantes querelles qui embrouillent tout. À qui entendre? Et qui a raison? Avec les années qui passent, nous allons trouver l'un en face de l'autre un saint devant un politique éminent. De là, des éclats, des brouilles sans lendemain, mais aussi des incompatibilités persistantes coupées de réconciliation. Élie connaîtra de terribles déboires et d'éclatants succès, Et ses ennemis iront jusqu'à contester la bénédiction dernière que lui donnera son frère bien-aimé au moment de mourir. À quel moment est-il entré dans l'ordre? Vers 1213 à Cortone? On n'en sait rien. Des documents utiles ont disparu. La seule date qui jette un peu de lumière est 1217, car cette année-là, François l'envoya en mission en Syrie, avec 4 frères. Mission importante dont Élie était le chef. La première mission vers les lieux saints. Élie était donc franciscain éprouvé depuis un certain temps. Mais alors, autre question. Pourquoi est-il entré dans cette fraternité dont il devait quelque peu dénaturer la physionomie primitive? Avait-il la vocation? Nous n'avons pas le droit de le nier. Il aimait François. Mais comment se défendre de croire qu'il voyait, comme François du reste, l'immense avenir de la petite fraternité d'hier qui devait couvrir le monde de ses minores, prodigieux lâchers de moineaux volant vers le ciel et semblant y porter la terre dont ils empruntaient la couleur? La réussite serait sans exemple pour qui s'entendrait à la prendre en main. La gloire, frère Élie. La gloire humaine, il l'aura. Il reste encore parmi les très grands personnages du XIIIe siècle, avec Frédéric II et Innocent III. Il a mis en place le franciscanisme. Dans l'absolu, qu'est-il donc auprès du Poverello? Mais abandonnons-le à ses très nobles rêves temporels. Il voulait la gloire, qu'on la lui laisse. Ce qui lui fait pardonner ses quelques erreurs, c'est son amour pour François. 1214. Il y a dans la vie d'un saint, où l'action et la contemplation se rejoignent, une continuité intérieure qui s'amuse à mettre au défi notre désir de fixer les événements par des dates précises. Nous voulons suivre le temps pas à pas, alors que l'âme se meut dans un présent éternel. Mais nous nous laissons fasciner par la succession des faits derrière lesquels se cache l'essentiel. Néanmoins, quelques points de repère nous procurent l'illusion de mieux comprendre ce qui échappe à notre curiosité. L'année 1214 fut marquée dans la vie de François d'Assise par 2 disparitions. La première fut celle de Jean le Simple. Nous avons vu que François, en parlant de lui, et il en parlait souvent, disait « Saint Jean ». La perfection spirituelle du disparu lui assurait la béatitude éternelle, et François ne le pleura pas. Pleura-t-il cet autre disparu dont nous apprenons la mort, en quelque sorte par incidence, sur les actes notariés concernant les biens des Bernardone, le nom d'Angelo prenant désormais la place de celui de Pietro? Comment savoir? Bernardone, père, fut témoin bien malgré lui de cette espèce de canonisation anticipée du fils qu'il avait si copieusement maudit. Vint le temps où les imprécations durent céder devant l'unanimité publique, et l'aimable mendiant Albert, qui détournait les foudres paternelles, se trouva sans emploi, mais entra sans doute dans la fraternité. Qu'arriva-t-il de l'orgueil du marchand de draps? Avec le temps, que se passa-t-il dans son cœur? Qui peut refuser de l'absoudre? Sur terre, Dieu lui avait pris tous ses espoirs. Pour quelle compensation? On espère que ce père s'est adouci avant de rendre à Dieu son âme indignée. En cette année de Bouvines, où des trônes vacillaient de nouveau, si nombreux que fussent les nouveaux venus dans la fraternité, François tenait à les recevoir lui-même avec honneur à la portioncule, et à les revêtir de la bure dans l'église de la Sainte Vierge. Avec sa gentillesse coutumière, il parlait à chacun selon sa condition, ce qui demandait autant de finesse que de tact, car il y avait de tout parmi ses arrivants, venus de tous les horizons et de tous les milieux, avec leur savoir ou leur simplicité. La fatigue ne comptait pas pour lui, et l'amour était le don de bienvenue que recevait le postulant, quel qu'il fût. Cette inépuisable tendresse qu'il tenait du ciel, François savait la faire passer dans le cœur de l'inconnu à genoux qui croyait la recevoir du Christ.
Voilà, mes auditeurs, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre avec Frère François, selon l'œuvre de l'historien Julien Green, qui s'appuie bien sûr sur les sources franciscaines, je tiens à le rappeler, avec cette formule audio proposée par les éditions Saint-Léger. Nous allons la semaine prochaine découvrir nos frères, les oiseaux. En attendant, comme Saint François se plaisait à le redire, que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.